Le journal Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Xi Jinping est arrivé en Corée du Nord. Le président chinois souhaite renforcer l'alliance entre les deux voisins au moment où le rapprochement entre Kim Jong-un et Donald Trump piétine. Nous irons dans la région.
Nous rejoindrons ensuite notre correspondante à Bruxelles à l'aube d'un nouveau Conseil européen. Il s'agira de trouver enfin les noms des futurs présidents des institutions européennes.
L214 dénonce l'enfer des vaches à hublots dans un centre de recherche en France. L'association publie pour cela ce matin une nouvelle vidéo glaçante. Sa cofondatrice nous expliquera pourquoi elle porte plainte dans un instant.
Les descendants d'esclaves aux États-Unis seront-ils indemnisés? La question se pose en ce début de campagne présidentielle outre-Atlantique.
Après ce journal, Frédéric Seyss nous rejoindra pour son billet politique. Il sera consacré ce matin à la droite qui est entrée, dit-il, en période de glaciation. Il est venu montrer qu'il fallait passer par la Chine pour négocier. Le président Xi Jinping a atterri ce matin en Corée du Nord. Une première pour un dirigeant chinois depuis 14 ans, depuis 2005. Nous retrouvons donc notre correspondant dans la région à Séoul, Frédéric Ojardias. Frédéric, Xi Jinping veut jouer le rôle de médiateur.
En se rendant à Pyongyang, le président chinois vient rappeler qu'il joue un rôle incontournable dans toute résolution de la crise coréenne. Xi Jinping n'a pas choisi son timing au hasard. Dans une semaine a lieu le sommet du G20 à Osaka, pendant lequel il devrait rencontrer le président américain Donald Trump. Ce sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un permet donc à Xi Jinping de montrer ses muscles et son influence sur la péninsule coréenne, ce qui lui donne des cartes de négociation supplémentaires dans la guerre commerciale qu'il oppose aux États-Unis. Kim Jong-un, de son côté, affiche son alliance avec la Chine pour renforcer sa propre position de négociation dans les pourparlers nucléaires avec Donald Trump. Des pourparlers bloqués depuis le fiasco de leur sommet à Hanoï en février. Kim Jong-un a aussi besoin du soutien de Pékin sur la question des sanctions. Au Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine vient d'ailleurs de s'opposer à une demande américaine d'interdiction complète des livraisons de pétrole au Nord. Quant à la Corée du Sud, elle voit ce sommet Xi Kim d'un œil positif. Séoul espère en effet que Xi Jinping fera pression sur Kim Jong-un pour rouvrir les négociations nucléaires et que la rencontre permettra de renouer le dialogue Nord-Sud. Pyongyang snob en effet Séoul depuis des mois et le président sud-coréen Moon Jae-in cherche par tous les moyens à relancer le processus de paix et de réconciliation.
Frédéric Ojardias depuis Séoul pour France Culture. Partons maintenant à Bruxelles où va se tenir un autre type de sommet aujourd'hui. Un conseil européen aujourd'hui et demain. Le temps presse. Plus de trois semaines après les élections, les 28 doivent se mettre d'accord sur les postes clés à la tête des institutions européennes. 5 postes sont à pourvoir. La présidence du Parlement, du Conseil, de la Banque centrale européenne, de la diplomatie et, le plus symbolique d'entre eux, la tête de la Commission européenne. Elle est au cœur d'une bataille franco-allemande, Angélique Bouin.
L'épine dans le pied du couple franco-allemand est toujours la même, c'est la présidence de la Commission et plus particulièrement la candidature de l'Allemand Manfred Weber qui bloque le mercato. Pour des raisons politiques, mais pas seulement, trop à droite et pas assez charismatique pour les uns, Manfred Weber est pour les autres le chef de file du PPE qui a gagné les élections européennes. Ses partisans font de sa nomination un principe institutionnel et démocratique. Mais l'Allemagne s'y accroche aussi pour des raisons de politique intérieure. Angela Merkel et Emmanuel Macron auront donc un tête-à-tête demain, avant le Conseil. Si la chancelière lâche son allié bavarois, la pelote de fil sera plus facile à dérouler pour les autres postes clés. Mais cela restera néanmoins compliqué par les équilibres à trouver entre groupes politiques, hommes et femmes, petits pays et grands pays. Une équation déjà difficile à 28, rendue encore plus complexe par le morcellement nouveau du Parlement. Les centristes et les verts veulent leur part du gâteau, non pas pour avoir leur nom en haut de l'affiche, mais bien pour peser sur les choix stratégiques de l'Europe de demain. Et c'est cela tout l'enjeu des négociations en cours.
Des négociations importantes, on l'a compris, pour un poste symbolique. À quoi sert, Angélique, un ou une présidente de la Commission européenne ?
La Commission, c'est le bras exécutif de l'Union européenne. Il ou elle dirige donc un quasi-gouvernement composé de quasi-ministres, les 27 commissaires envoyés par les autres pays que le sien. Ils héritent chacun d'un portefeuille, la concurrence par exemple pour Margrethe Vestager qui vise le poste, ou les affaires économiques et financières pour le français Pierre Moscovici. Son président est élu pour 5 ans. Sous son autorité travaillent quelque 33 000 collaborateurs d'au moins 28 nationalités. Maîtriser l'anglais, première langue de travail, est un minimum. Quel est son pouvoir ? Il dirige la seule institution qui peut proposer proposer des textes de loi aux eurodéputés et aux ministres réunis en conseil, c'est donc stratégique. Il gère le budget de l'Union et surveille ceux des États, mais c'est aussi le gardien des traités. La Commission veille en effet au respect des règles consenties par tous. Son président peut saisir la justice européenne contre un État membre. Un poste stratégique également face au reste du monde, car c'est le visage de l'Europe pour 5 ans, mais son pouvoir est limité par les chefs d'État et de gouvernement.
Merci Angélique Bouin depuis Bruxelles ce matin. Elle est l'un des pays les plus stricts de l'Union européenne en la matière. La France va-t-elle se tourner vers la légalisation du cannabis? Un comité d'experts se prononçait hier pour le cannabis thérapeutique prescrit de façon encadrée. Eh bien ce matin, c'est le Conseil d'analyse économique qui se prononce pour la vente du cannabis, thérapeutique ou non. Il préconise un monopole de vente pour l'État. 9 euros le gramme de cannabis pourrait ainsi rapporter près de 2 milliards d'euros par an à l'État français. Et puis, hasard du calendrier, notez que c'est aujourd'hui que sera déposée une proposition de loi à l'Assemblée nationale. À ce propos, le gouvernement, lui, a déjà fermé la porte à un usage récréatif du cannabis en France. Au chapitre des débats politiques encore, ce lancement officiel hier de la campagne contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Les députés, les Républicains, se sont associés pour l'occasion hier soir à des élus de la France Insoumise, du Parti Socialiste et du Parti Communiste. Ils ont 9 mois pour rassembler les 4 700 000 signatures nécessaires à l'organisation d'un référendum. Face à eux, hier, 250 personnes s'étaient réunies à la Bourse du Travail de Saint-Denis, au nord de Paris, et notamment une vingtaine de représentants syndicaux d'ADP. Daniel Berton, secrétaire général de la CGT Aéroports de Paris, a par exemple fait part de ses craintes sur une possible privatisation d'ADP.
Les inquiétudes concrètes, elles sont liées à la première privatisation qu'on a vécue en 2006, avec l'État qui s'est retiré à hauteur de 50%, et donc des pertes d'activité et d'emploi. On était 8000 en 2005, on n'est plus que 6400 aujourd'hui. La crainte, c'est que ça s'accentue avec une privatisation et que les conditions de travail soient encore plus dégradées et ne permettent plus aussi le maintien des compétences. Il faut savoir que la plupart des compétences qui sont aujourd'hui chez Aéroports de Paris sont issues de cette histoire d'établissements publics qui ont permis de développer à la fois des métiers très spécifiques dans un contexte particulier, puisque seuls les aéroports de Paris en France sont capables de développer ces métiers vu le nombre de passagers et le trafic qu'ils génèrent.
Des propos recueillis hier soir par Anne Fauquemberg. Les images sont fortes, les mots pour les décrire également. Mais l'association L214 veut effectivement faire réagir. Des vaches à l'estomac perforé, des poulets trop gros pour pouvoir marcher, des cochons, lapins, poussins analysés pour améliorer leur productivité. Tout cela est visible sur de nouvelles images de l'association de défense des animaux et de la cause végane L214. La vidéo a été tournée dans le premier centre de recherche en nutrition animale en Europe. Il se trouve dans la Sarthe, en France donc, et il appartient à l'entreprise Sanders. Brigitte Gauthier est la cofondatrice de L214. Elle revient notamment sur la fistulation, ces vaches à hublot étudiées par les chercheurs.
Par ce hublot, en fait, on va déposer des sachets dans la panse des vaches, de façon à voir comment la nourriture se dégrade, à quelle vitesse va la digestion, etc. etc. C'est vraiment l'étude de la digestion avec un accès direct dans l'estomac. L'ensemble de ces animaux sont du matériel de laboratoire pour élaborer l'alimentation future des animaux, une alimentation qui est destinée à les booster. Et aujourd'hui, ça paraît complètement aberrant de continuer de faire ce genre d'expérimentation. Et puis, illégal, puisque les expérimentations sur les animaux sont interdites, sauf s'il y a stricte nécessité.
Une nécessité qui n'existe pas, selon L214. L'association précise donc qu'elle va porter plainte contre ce centre pour expérimentation. C'est une première sous la Ve République. Nicolas Sarkozy, ancien président, sera bel et bien renvoyé devant un tribunal correctionnel dans l'affaire dite des écoutes. Ce procès pour corruption de l'ancien chef d'État devrait se tenir dans les prochains mois. Pour ce procès-là, le jugement est attendu en septembre et en octobre. Procès des époux Balkany et de 3 autres prévenus. Il s'est terminé hier à Paris. Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret, est suspecté, je vous le rappelle, de blanchiment à grande échelle. Le parquet national financier avait requis 7 ans de prison avec une incarcération immédiate. Penchons-nous à présent sur cette requête du groupe Lafarge et de 3 dirigeants sur laquelle se penche aujourd'hui la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Les 3 dirigeants contestent leur mise en examen pour financement du terrorisme. Retour sur les faits ce matin avec Antoine Marette.
Les juges soupçonnent le cimentier Lafarge d'avoir versé en 2013 et en 2014 près de 13 millions d'euros de taxes et de commissions à des groupes terroristes, dont l'État islamique, pour maintenir l'activité de son site en Syrie, pays alors en pleine guerre. Lafarge est également suspecté d'avoir vendu du ciment de l'usine au profit de l'EI et d'avoir payé des intermédiaires pour s'approvisionner en matières premières auprès de djihadistes. Lafarge a été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, violation d'un embargo, financement du terrorisme et complicité de crimes contre l'humanité. Cette dernière incrimination avait créé la surprise dans le monde des affaires avant d'être mise en doute par le parquet général en raison de l'absence de preuves. Pour le ministère public, il n'existe aucun indice grave ou concordant que les anciens salariés partis civils auraient été victimes de complicité de crimes contre l'humanité. Trois anciens dirigeants de Lafarge sont poursuivis de leur côté pour financement de terrorisme et mise en danger. Eux aussi contestent l'ensemble de leur mise en examen.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq Réal. Les descendants d'esclaves aux États-Unis seront-ils indemnisés?
La question se pose et fait débat outre-Atlantique alors que débute la campagne pour la présidentielle de 2020 et que le pays commémore cette année le 400e anniversaire de l'arrivée des premiers esclaves africains dans l'État de Virginie. Hier, la Chambre des représentants a évoqué cette possibilité d'indemnisation. Voici les faits avec notre correspondant Grégory Phillips.
En 1865, alors que la guerre de sécession vient de s'achever, Abraham Lincoln promet d'octroyer 40 acres de terrain et une mule à chacun des 4 millions d'esclaves noirs libérés, mais sa parole ne sera jamais respectée. Plus de 150 ans après, le débat sur l'indemnisation des descendants d'esclaves refait surface, porté notamment par l'écrivain afro-américain Ta-Nehisi Coates, qui hier à la Chambre disait ceci. Il est impossible d'imaginer l'Amérique sans l'héritage de l'esclavage. Aujourd'hui, une famille moyenne noire américaine est 10 fois moins riche qu'une famille blanche. Aujourd'hui, les femmes noires meurent au moment de l'accouchement 4 fois plus que les femmes blanches. Et bien sûr, dans ce pays de la liberté, il y a cette honte. Les descendants des esclaves forment la plus grande partie de la population carcérale. Plusieurs candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020 soutiennent le projet, mais ne détaillent pas les mesures qu'ils prendraient pour le mettre en œuvre. 35 millions d'Afro-Américains pourraient être concernés et la mesure pourrait coûter jusqu'à 10 000 milliards de dollars selon le degré de compensation retenu. Dans un sondage réalisé en 2015, 52% des Noirs américains soutenaient ce projet, 89% des Blancs interrogés s'y opposaient et le patron de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a dit hier que ce n'était pas une bonne idée de vouloir réparer des faits remontant à plus d'un siècle et demi.
Les gardiens de la révolution iranien annoncent ce matin avoir abattu un drone espion américain. Il aurait violé l'espace aérien de la République islamique, selon la télévision d'État en Iran. Une information qui fait redouter l'éclatement d'un conflit ouvert entre Washington et Téhéran. L'Iran encore et les tensions dans le Golfe. Le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron s'est rendu hier en Iran. Il s'agit, dit l'Élysée, de contribuer à apaiser les tensions dans la région. La formation des enseignants français est incomplète et ils le savent. Voici ce qui ressort du dernier rapport de l'OCDE sur l'apprentissage. L'Organisation de coopération et de développement économique compare la situation de l'enseignement dans une cinquantaine de pays. Et si les Français sont les plus diplômés, ils ne sont pas assez préparés aux techniques d'enseignement, Suzanne Choudjahi.
En France, 40% des enseignants travaillent dans des classes où au moins 10% des élèves ont des troubles mentaux, physiques ou émotionnels. C'est bien plus que la moyenne dans les autres pays, 27%. Mais le tiers des enseignants français aimeraient être formés dans ce domaine. C'est la même chose dans les classes plurilingues, avec des enfants dont la première langue n'est pas le français. 12% des profs sont formés pour enseigner dans un contexte multiculturel. Et dans ce domaine, la France est le plus mauvais élève parmi les pays de l'OCDE. Les profs continuent de demander des formations. Et puis, les enseignants font la police dans les salles de classe. Seule la moitié d'entre eux se disent bien formés à la gestion des comportements. Ils sont 72% en moyenne dans le reste de l'OCDE. Pas étonnant, selon les syndicats, puisque le temps de formation est court. Les jeunes profs sont confrontés très tôt à des classes. Et quand on ajoute chaque minute consacrée à la discipline, ce sont des journées entières de cours perdus, jusqu'à 7,5 jours dans certains établissements.
L'éducation encore et la question de la bonne éducation en plein baccalauréat. C'est le thème des matins de France Culture ce jeudi avec Guillaume Erner.
Et oui, on va parler des programmes, effectivement.
Invité que nous retrouvons dans 5 minutes, Guillaume. Juste le temps pour moi de vous donner la météo de ce jeudi qui débute. Le temps s'annonce orageux, des Pyrénées jusqu'au nord-est, sur l'ouest du pays, de la Gironde, Hauts-de-France. Les conditions seront nettement plus calmes aujourd'hui, avec un ciel bien ensoleillé, surtout dans l'après-midi. Ce matin, comptez 17 degrés à Nantes, 18 à Paris et Lille, 20 degrés à Bordeaux, 22 à Strasbourg et Lyon, 25 à Marseille et sur la Corse.